Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay. You know, it's okay.
Bonsoir à tous.
No, I don't know if I can let you go. I know I say yes, but my heart don't let go. No, I don't know if I can let you go. I know I say yes, but my heart don't let go.
Venons d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec un enregistrement public inédit réalisé à Marseille le 17 juillet 2019 dans le cadre du Marseille Jazz des 5 continents dont la 20e édition a accueilli la crème des musiciens internationaux de Marcus Miller à Chucho Valdés ou Tony Allen. L'affiche 2019 s'ouvrait donc avec le groupe français Delgrès que nous allons retrouver dans un instant à notre micro.
No, I don't know if I can.
Ce blues rugueux échappé de l'épopée des musiques noires est donc la signature d'un trio dont le nom Delgrès renvoie à une histoire tragique et glorieuse à la fois, dont nous allons parler avec Pascal Danaé, Baptiste Brondier et Ravji, respectivement chanteur-guitariste, batteur et sousaphoniste. Messieurs, bonjour.
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 Tout d'abord, félicitations pour ce disque, cette musicalité inédite et ce cours d'histoire tellement utile de nos jours. Comment est née cette idée de marier le blues, le créole et l'histoire antillaise ? Pascal Danaé.
Bah, en fait, ce sont plusieurs pièces d'un puzzle personnel qui se sont assemblées comme ça au cours des années. D'abord, donc, moi qui suis d'origine guadeloupéenne, né en France hexagonale, ben, je suis allé pour la première fois aux Antilles, finalement assez tard dans ma vie, et j'ai rencontré une vieille cousine de mon père qui m'a donné la lettre d'affranchissement de mon arrière-arrière-grand-mère. Donc ça, c'était une pièce importante. Il y a ce Louis Delgrès dont mon père m'a parlé comme ça, très furtivement, qui d'un seul coup a pris une importance particulière à un moment où j'en avais vraiment besoin. J'avais besoin de cette figure combattante dans mon passé d'Antillais. Et puis voilà, tout un tas de choses. Le coup de poing que j'ai reçu en regardant les DVD de Martin Scorsese consacrés au blues. Toutes ces petites choses-là ont convergé à un moment donné pour me donner envie de faire du blues, de le jouer, mais ensuite surtout de l'exprimer avec le créole, voilà, la langue de mon enfance avec laquelle j'ai grandi, parce que ça me permettait d'aller vraiment au fond de ce que je ressentais et d'exprimer mon blues à la fois personnel et celui peut-être d'autres Antillais.
Est-ce que les germes de Delgrès étaient déjà dans votre précédent groupe Rivière Noire ?
Oui, parce que dans Rivière Noire, il y a une mélancolie. Il y a quelque chose, une forme de blues, alors il était peut-être plus mandingue, et même dans la manière dont chante Orlando, il y a le Brésil, il y a la saudade, il y a tout ça, et c'est toujours présent, parce que finalement c'est quelque chose qui est universel, ce sentiment de blues, il a juste des noms différents.
Alors parlons précisément de Delgrès et du résistant ultime, Louis Delgrès, colonel abolitionniste. Est-ce que vous pouvez nous rappeler qui il était et pourquoi il vous inspire tant, messieurs Ravji?
En fait, à l'origine, le groupe, il s'appelle pas Delgrès. On a commencé à jouer ensemble autour de la musique. Et la musique, dès le début, elle était blues et elle était créole. À un moment donné, il a fallu se pencher sur comment on va s'appeler, tout simplement. Pascal, il a proposé le nom de Delgrès. Donc, on est tous allés voir qui était Delgrès, parce qu'on forcément, on ne le connaissait pas. Et c'est vrai que c'était une figure emblématique. Voilà, on a tout de suite adopté ce nom parce que ça correspond exactement à ce qu'on fait, une musique qui à la fois est engagée, à la fois qui est rock, à la fois il y a beaucoup d'influence et il y a cette énergie, il y a cette rage positive dans la musique et donc Delgrès était un nom parfait pour nous.
Est-ce que vous pouvez nous dire précisément qui était Louis Delgrès ?
Louis Delgrès était un officier de Napoléon Bonaparte, un officier métis né en Martinique et qui a vécu sa vie de soldat. Soldat, évidemment, vu les circonstances, soldat de la Révolution française, donc qui s'est battu pour la liberté et la République, et qui était basé en 1802 en Guadeloupe, au moment où Napoléon Bonaparte a voulu rétablir l'esclavage. Et comme c'était un homme de conviction qui s'était battu pour la liberté, ben, il pouvait pas laisser ça passer. Donc il est entré en rébellion, ils se sont battus pendant tout le mois de mai, et au moment où il s'est senti perdu, en tout cas en sous-nombre, il savait qu'il pouvait pas gagner, ben, il a décidé, avec ses 300 camarades, voilà, ils étaient réfugiés à Matouba, à Basse-Terre, et ils ont fait sauter tout l'endroit où ils étaient au moment où les Français ont attaqué. Donc ils se sont sacrifiés plutôt que de se soumettre. Voilà. Donc une figure importante et qui, au-delà de, évidemment du sacrifice et du côté héros régional, est une figure que je trouve très intéressante d'un point de vue simplement humain et général.
Vous le disiez en préambule, Pascal Danaé, il y a une autre histoire derrière cette histoire. C'est celle de votre arrière-arrière-grand-mère, avec une histoire de lettre qui date de 1841. Est-ce que cette lettre vous a indirectement, à travers le temps, guidé dans l'écriture de cet album Mojodi?
En fait, pourquoi à un moment, c'est vrai que le groupe s'est appelé Delgrès? Parce que, en plus d'être ce grand personnage historique, surtout, moi, je ne connaissais pas son existence jusqu'à assez tard dans ma vie. Donc ça, c'était quand même symptomatique. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il y a comme ça des espèces de personnes immenses qui font des choses fantastiques et qu'on oublie, qui passe comme ça sous le tapis. Donc, pour moi, Delgrès, c'est un héros oublié. Oublié par moi-même, oublié par la France hexagonale, par certaines personnes. Et Louise Danaé, pour moi, c'est une héroïne oubliée. Simplement parce que le temps passe, et puis qu'on oublie qu'il y a des gens avant nous qui sont battus. Ben voilà, elle fait partie de ces gens-là. Pendant 27 ans, elle était esclave, elle était blanchisseuse. Et elle a élevé ses 4 enfants, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour que moi, je sois là, aujourd'hui.
Qu'y avait-il dans cette lettre de 1841 ?
Ben, c'était marqué, c'était vraiment la lettre d'affranchissement, type. Donc, Louise Danaé, 27 ans, et ses 4 enfants, il y a les noms, Clément, Ulysse, mon arrière-grand-père, 1 an, il y a les âges, et tout est marqué, sont déclarés libres, à la demande de sûr, parce qu'en fait, ils ont été déclarés libres, je pense, par le maître, qui est en général, comme ça arrivait quelquefois à l'époque, sur son lit de mort, peut-être a décidé de les affranchir.
Est-ce que vous jouez du blues, comme je l'ai dit en introduction, Baptiste ?
Oui, c'est du blues en tout cas, bien à nous. Pour ma part, j'ai fait beaucoup de blues, Chicago Blues, voilà, avec un groupe qui s'appelle Malted Milk, nantais. Et c'est en tout cas là-dedans que j'ai fait mes armes. Donc je suis arrivé avec un vrai blues américain au sein du groupe Delgrès. Et c'est aussi un blues très personnel de par nos sentiments de notre vie, de nos voyages. Et c'est quelque chose qui est propre à Delgrès. Donc c'est un blues nouveau, on pourrait dire, avec une touche de poussière et de mémoire collective.
Est-ce que vous considérez que le blues est le dénominateur commun à toutes les souffrances de la diaspora noire dans le monde, Ravji?
Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a du blues dans beaucoup de musique, en tout cas. Beaucoup de musique arrive à exprimer cette souffrance qui est commune à l'humanité, tout simplement. Moi j'avais même l'impression de jouer du blues quand je faisais du classique, des fois lors de certains adagios. Quand on arrive à y mettre le cœur, eh ben, y a une sorte de blues, même si ça ressemble pas à la forme et dans le son c'est très loin du blues afro-américain qu'on peut connaître. Voilà, maintenant, c'est sûr que Delgrès, nous, on fait quelque chose qui est très blues, avec bien évidemment des influences qui sont multiples et notre touche personnelle.
Ravji, vous jouez du sousaphone, que l'on c'est retrouve ça. Aussi dans les fanfares de la Nouvelle-Orléans. Est-ce que vous avez le sentiment d'imprimer une humeur jazz néo-orléanaise dans ce groupe et est-ce que c'est l'intention?
Alors, ça a été l'intention de départ, quand Pascal m'a appelé, c'était justement de ne pas avoir un bassiste, mais d'avoir un tubiste, donc un sousaphone. C'était pour avoir ce son qui rappelle la rue et qui rappelle le vieux jazz. Alors, je ne sais pas si vraiment il y a une sonorité de jazz, mais il y a une sonorité de rue et de ce jazz particulier de la Nouvelle-Orléans, qui est propre donc à l'origine du jazz et puis actuellement aux fanfares aussi, qui perdurent là-bas. Et qui imprime un style très très fort. Donc cet instrument, il rappelle ça évidemment.
Pour ceux qui ne connaissent pas le sousaphone, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est? C'est cet énorme cuivre dans les fanfares, qui en général est à la fin de la fanfare, si je ne dis pas
de bêtises. C'est ça, il est à l'arrière, il est avec les percussions à l'arrière. Donc c'est le plus gros des cuivres, c'est un grand tube dans lequel l'instrumentiste est enroulé. Donc voilà, ça entoure le bonhomme et ça joue le rôle de basse. Ça joue des notes graves et souvent sur les temps. La blague du tubiste, hein, c'est, on fait que poum, 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 poum. Ben voilà, c'est le tuba qui fait ça dans les fanfares. Donc c'est un instrument, effectivement, on peut aller à cet instrument, quand on vient d'autres instruments, il paraît facile. Dans mon cas, c'était une facilité.
Oui, et puis il est très important. Ouais. Quelque chose dont on se rappelle quand on est enfant, qu'on voit ça, c'est quelque chose de marquant.
C'est l'appel, c'est ça qui m'intéressait dans le fait de faire venir, c'est que c'est un appel de la rue. Même quand on voit moi j'avais toujours en tête les funérailles à la Nouvelle-Orléans, on voit cette espèce de pavillon qui est là, qui domine, et puis c'est ce qu'on entend de plus loin, parce qu'il y a cette espèce de voix là. Donc c'est une manière de rassembler tout le monde dans la rue, je trouve ça extrêmement noble.
Et puis ça donne une tonalité qu'on retrouve peut-être dans les bayous de Louisiane, je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là. Et est-ce que d'ailleurs c'est l'intention? Est-ce que vous cherchez justement à retrouver cette sonorité-là?
Ah oui, totalement, c'était totalement l'intention. Moi j'ai toujours adoré la musique quand j'étais gamin, j'ai toujours été extrêmement sensible à la fois à la musique cajun et ce qui se passait à la Nouvelle-Orléans. Et vraiment c'était l'envie, puisqu'on avait commencé à développer cette musique avec la guitare dobro, c'était de retrouver ce son cuivré, le son de la rue et en même temps d'avoir cette référence, d'avoir d'un seul coup la Louisiane qui rentrait comme ça dans le groupe avec cet instrument.
Moi, je l'ai particulièrement entendu dans Ramenez moins. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de très New Orleans, bayou, louisianais dans ce titre-là. D'ailleurs, quel est le propos de Ramenez moins, Pascal Denaï?
Ben, Ramenez moins, c'est un peu d'exaspération, comme il y en a quelques-unes dans l'album. Monsieur Président étant sans doute la plus connue, mais Ramenez moins, ça veut dire ramène-moi. En gros, c'est une manière de dire, si tu aimes pas qui je suis, ramène-moi au pays de mes ancêtres. C'est pas grave, je suis prêt à retourner. Dans les faits, c'est pas forcément une chose dont j'aurais envie, parce que le moment, on est dans la culture dans laquelle on grandit, surtout. Il y a des racines, c'est important, mais surtout, on est, voilà, les gens avec qui on partage le quotidien, c'est ces gens-là qui vous font. Mais c'est vrai que il arrive parfois, voilà, constater qu'après toutes ces années, la Guadeloupe étant française depuis toutes ces années, encore dernièrement en interview, quelqu'un a dit à Ravji et à Baptiste, vous êtes 100% français, et ça, c'était pas pour moi. Mais c'était en toute, oui, voilà, mais c'était pas méchant.
C'est de la naïveté, voilà, ou de l'ignorance. Naïveté,
voilà. On fait ce qu'on peut, en tout cas, pour mettre un petit peu de lumière sur quelque chose qui existe depuis longtemps, cette culture caribéenne du blues, ce lien très fort avec la Louisiane. On exhume ça un petit peu, et puis on fait notre petit travail. On fait notre part, comme nous dirait le colibri.
Je vous propose d'écouter Ramenez-moi, et on se retrouve dans un instant. Thank you. Ramenez-moi un extrait de Mojody, le premier album du groupe Delgrès, qui n'en finit plus de tourner à travers toute l'Europe. Ça va ? Vous tenez le coup, Baptiste ?
Oui, oui, on a une bonne hygiène de vie, on a une bonne équipe sur la route qui nous aide. On s'aime beaucoup, on passe de bons moments. La fatigue est une bonne fatigue, mais on est là.
Comment expliquez-vous le succès actuel du groupe ?
C'est toujours délicat de trouver des mots et de trouver une raison à ça. Je pense que c'est la cohésion sur scène qu'on a et qu'on a eue même avant de faire un album. C'est-à-dire qu'on a commencé il y a à peu près 5 ans par les États-Unis. Un des premiers concerts, c'était à la Louisiane d'ailleurs. Et on a très vite joué partout, dans des petits clubs, sur des grosses scènes, partout dans le monde. Et ça nous a forgé. Et on a pu développer quelque chose qui est peut-être unique, je sais pas, mais en tout cas que nous, on aime et on adore se procurer sur scène et avec le public.
Est-ce que vous pensez que c'est la musique qui intéresse le public ? Est-ce que c'est la thématique de ce groupe qui suscite l'intérêt du public ?
Je pense que c'est assez dissocié parfois. Les gens vont venir pour un bout d'histoire au concert, d'autres vont venir que pour la musique, d'autres qui connaissent le sousaphone vont être intéressés par ça et vont découvrir le créole, etc. Donc c'est vraiment des familles de tout horizon qui viennent au concert et qui se réunissent pour Delgrès, et d'autres viennent pour la totalité du groupe.
Et comment réagit le public qui ne comprend pas forcément le créole ?
Ben, ils se sont emportés. En fait, on leur laisse pas le choix. Et allez, vous montez sur le bateau, c'est comme les ancêtres. Allez, hop. Oui, parce que il y a un côté conte dans la manière dont on aborde le concert. C'est un truc qui se fait pas forcément dans les concerts de rock'n'roll, parce que souvent les Anglais arrivent et ils déroulent leur truc. Ils sont pas forcément dans le côté songwriter, avec un son aussi puissant. Mais nous, on aime bien, justement, alterner des phases vraiment fortes, telluriques, et puis d'autres phases où on va justement dire, voilà, cette chanson, elle parle de ça, et mettre un petit peu les gens dans l'espace mental de ce que représente cette chanson. Ce qui fait que ça leur permet, même s'ils ne comprennent pas chaque mot, d'être avec nous, de comprendre le propos. Et voilà, on voyage ensemble. Et en général, ils sont à la fin, ils sont ravis parce qu'ils disent ah, « j'ai pas tout compris, mais par contre, j'ai compris l'essentiel, l'émotion. » Donc quand ils nous disent ça, pour nous, c'est la meilleure des récompenses.
Est-ce que c'est un album politique, Mojody, Ravji ?
C'est un album qui est avant tout humain. Et la politique, c'est une des grandes facettes de l'humain, en tout cas des revendications qu'on peut avoir en tant qu'humain. Et à travers les chansons que nous avons, on traite de politique, un peu d'inégalité aussi, enfin de toutes ces thématiques qui sont fortes. Monsieur le Président, ça parle aussi donc forcément des présidents en général, et du fait que même si on a voté pour quelqu'un, ben, finalement, au bout du compte, on ne se sent pas forcément écouté dans les faits a posteriori. Et donc c'est un album qui est en partie politique.
Beaucoup d'artistes caribéens et notamment antillais se plaignent du peu d'espace médiatique qui leur est accordé. Est-ce qu'il y a une forme de militantisme de votre part pour faire entendre un son, une langue, une culture au plus grand nombre ? C'est une question pour vous trois.
C'était un besoin, à titre personnel. Quand j'ai commencé à faire les toutes premières chansons de ce qui allait devenir le groupe, je faisais ça vraiment pour moi. Je me souciais pas du tout de ce que ça allait devenir. Donc, j'étais pas du tout en train de me dire, tiens, comme ça, les gens vont entendre du créole différemment ou autre. J'avais juste un besoin énorme de faire ça pour continuer à avancer. Mais après, évidemment, une fois que c'était là, je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Ça va faire entendre aussi autre chose, amener une autre proposition. Et je pense que l'espace médiatique, c'est vrai qu'il n'est pas forcément très ouvert pour tout ce qui est ultramarin, mais je dirais que c'est pas seulement pour les Antillais, c'est pour toutes les cultures régionales. C'est comme ça, c'est depuis Louis XIV, hein, voilà, tu te souviens d'en haut. Mais je pense que si on fait des propositions, si on crée des choses, voilà, et ben les gens, ils s'intéressent.
Je vous pose cette question parce qu'une chanson comme Respectez-nous, c'est pas une chanson anodine.
Non, mais c'est un thème très important qui revient beaucoup chez nous parce que c'est le besoin de nous respecter nous-mêmes pour acquérir le respect des autres. C'est quelque chose qu'il faut répéter énormément.
Pardonnez-moi. Si moi, pas qu'à regarder, si des jours, moi besoin, faire mes yeux. Pour pas ou quoi.
Est-ce que vous pensez poursuivre votre aventure sur cette tonalité-là et sur cette histoire-là au fil des années, ou est-ce que vous allez peut-être évoluer en fonction des albums ? Baptiste ou Ravji ?
Bah, en tout cas, Delgrès sera là toujours. Louis Delgrès, c'est un peu notre parrain dans le ciel, donc il sera là. Après, rien n'est figé. On va là où le temps nous mène, nos voyages, etc. Donc, c'est un peu un bateau qui vogue vers là où on veut bien aller. Alors, ça restera du Delgrès, c'est sûr, mais ça peut être un climat musical un peu différent, avec des invités, des choses que nous-mêmes, on ne sait pas encore. Donc, et c'est ce qui fait aussi notre force. Ça foisonne toujours de nouveautés, en tout cas, dans nos esprits, quoi.
Est-ce que vous diriez que Delgrès a une dimension pédagogique? Est-ce qu'il y a une dimension pédagogique dans vos œuvres, une volonté de faire découvrir une épopée méconnue?
On espère en tout cas, c'est toujours intéressant de faire découvrir ce genre de héros et ce petit bout d'histoire important à des gens qui ne connaissent pas, comme nous d'ailleurs, comme moi je ne connaissais pas Delgrès, moi en plus je suis nantais. Donc c'est quelque chose de fort. Alors, symboliquement.
Il faut rappeler.
Oui.
Parce que nos auditeurs qui sont à travers l'internet ne savent pas forcément que Nantes a été quand même un port particulièrement emblématique, on va dire, dans l'histoire du commerce triangulaire.
Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que moi ça m'a beaucoup touché cette histoire avec Delgrès parce que évidemment je suis nantais, donc ce grand port esclavagiste voilà en France, important. Et c'est vrai qu'on en parle tous les trois de cette grande histoire malheureuse. Oui, on a besoin de comprendre les paroles, nous aussi, pour jouer cette tragédie, entre guillemets, et cet espoir aussi qu'il y a dans les paroles. Voilà, donc c'est quelque chose d'important.
Jusqu'à présent, quel concert, quel public, quel voyage vous restera en mémoire? Parce qu'on le rappelle, vous êtes sur la route depuis des mois et des mois, vous donnez des concerts partout. Il y a forcément quelque chose qui va rester. Et ce serait quoi? Ravji, Baptiste ou Pascal Danaé?
Ce qui me vient à l'esprit, c'est le premier concert en Guadeloupe quand même. C'est-à-dire, après des années de tournée, finalement, on fait notre premier concert en Guadeloupe, à l'Archipel, scène nationale, à Basse-Terre. Avant ça, on est quand même un peu dans nos petits souliers, parce qu'on s'appelle, en gros, Charles de Gaulle, ou voilà. Hein, c'est le nom, il a quand même, c'est énorme en Guadeloupe, de s'appeler comme ça. Donc, on arrive là-bas, et puis l'accueil était fantastique. Une rencontre avec les gens, une espèce de... Ouais, l'impression de retrouver vraiment la famille. Les gens qui se lèvent et puis qui chantent, qui n'en finissent pas, qui veulent pas quitter la salle. Voilà, donc beaucoup de larmes d'émotion, un moment super fort. Quoi. Il y en a eu plein d'autres, mais celui-là, c'est vrai que c'est le premier qui me vient à l'esprit.
Est-ce que vous êtes rendu en Afrique ?
Récemment, notre première date africaine, c'était au Maghreb, là au Maroc, à Mawazine. Et c'était une superbe date aussi, dans un cadre fabuleux, une grande scène, un public génial. Enfin voilà. Et aussi, on était très bien accueillis aussi là-bas. Ben pour l'instant, c'est pas prévu à court terme d'y retourner, mais...
Parce qu'il y a une histoire commune entre les Antilles, l'Europe et l'Afrique. Je pense que la musique de Delgrès devrait parler à l'Afrique tout entière, non?
Oui, ce serait... Oui, nous, on adorerait, évidemment, parce que là aussi, c'est vrai qu'il y a un travail, parce que les gens ne savent pas forcément aussi ce qui s'est passé de l'autre côté. Ceux qui sont ici savent, mais ceux qui sont restés au pays, des fois, ils disent « Ah, t'es antillais, hein, tu fais partie des frères qui sont partis. » Ils disent ça... Et c'est bien de leur dire, oui, il y a quelqu'un qui s'est battu là-bas, voilà ce qui s'est passé. Oui, il y a énormément de choses. Déjà, avec Rivière Noire, il y avait cette manière, des fois, quand je parlais pas beaucoup avec Bako Dagnon, parce que c'était pas son style, c'était pas une dame qui parlait beaucoup, ou même Kassemadi, mais parfois, ouais, j'avais l'impression d'avoir un peu un grand-père ou une grande-tante, ce lien qui est très fort avec l'Afrique, là, toujours présent.
Donc Delgrès, c'est un groupe universel, on peut le dire maintenant?
Oui, parce que le thème principal du groupe Delgrès, finalement, c'est pas tant Louis Delgrès, c'est la liberté. Au sens, la liberté d'être qui on est, d'assumer toutes les différentes parts aux yeux du monde. Là, on a un Nantais, un Parisien conçu en Guadeloupe, un Guadeloupéen né à Argenteuil. Voilà, et on est là et on fait de la musique autour du monde. Ça veut dire quelque chose. Donc on incite les gens, on les invite à faire de même. C'est possible. Et ça, c'est quelque chose qui peut se décliner d'une manière complètement différente. Aujourd'hui, avec des tambours, demain avec des viols de gambe, et tout, on ne sait pas.
Eh bien, en tout cas, félicitations pour ce projet, ce groupe, cette musique, cette tournée. On attend le prochain album avec impatience. Merci Pascal, merci Baptiste, merci Ravji. Merci. Et tous nos voeux de plein succès à Delgrès.
Merci beaucoup. Merci.
À bientôt.
Salut. À bientôt.
Cette chanson s'appelle « Mangeaudi », qui veut dire « mourir aujourd'hui ». Mangeaudi. Thank you.
C'était le 17 juillet 2019 sur le parvis de la Bibliothèque départementale de Marseille. Le groupe Delgrès ouvrait la 20e édition du Marseille Jazz des 5 continents avec un concert gratuit suivi quelques minutes plus tard par l'étonnant duo Mino Sinelu, Niels-Peter Molvær, un percussionniste et un trompettiste dont vous entendrez les œuvres prochainement dans l'épopée. Quant à Delgrès, vous les retrouverez le 30 juillet à Bledlino en Slovénie, le 2 août à Floref en Belgique et de retour en France du 3 au 9 août, puis des concerts au Danemark, en Suisse, en Espagne, en Angleterre, jusqu'à la fin de l'été. L'émission du jour a été réalisée par la rigoureuse Nathalie Laporte avec le concours à Marseille de Laurie Plisson. Passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours, dans quelques instants, le journal.